que le président Biden m'avait demandé de transmettre. Qu'on savait ce qu'il préparait et qu'il allait payer un lourd tribut s'il lançait une telle invasion. Le président Poutine s'est contenté d'écouter. Il n'a fait aucun effort pour nier que cette planification était en cours. Il avait des griefs contre l'Ukraine et contre l'Occident. Il pensait que les dirigeants occidentaux, notamment les États-Unis, n'avaient pas prêté attention aux préoccupations de la Russie au fil des ans. J'étais troublé en arrivant à Moscou, je l'étais encore plus en repartant.
Ces nouveaux renseignements, une réunion a été organisée à l'OTAN pour décider de la marche à suivre. Zelensky y a envoyé son ministre des Affaires étrangères.
Bon nombre de nos pays amis nous ont toujours soutenus, comme la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Pologne. Mais on n'a pas besoin de 30 amis. On a besoin de 30 alliés. J'ai demandé, si ce n'est pas l'adhésion, permettez-nous de prendre des mesures préventives, des sanctions préventives, quelque chose de préventif, des avertissements et ainsi de suite.
The stronger we are, the less tempting it will be for Russia.
On met que le pire scénario était très probable, que la Russie avait l'intention d'attaquer l'Ukraine et qu'elle utiliserait tout ce qui est en son pouvoir pour occuper l'ensemble du pays. Et je peux affirmer que beaucoup de gens ont été très choqués.
Tous les alliés étaient d'accord pour dire qu'il s'agissait d'un important renforcement militaire. Mais il y avait des différences sur la façon d'interpréter ces faits. Dans quelle mesure n'était-ce qu'une démonstration de force ou bien une tentative de contraindre l'Ukraine ?
Un certain nombre de nos homologues n'étaient pas convaincus. Ils nous ont demandé, à moi et à d'autres homologues baltes, si on croyait vraiment qu'une invasion à grande échelle d'un pays de 40 millions d'habitants était possible. Pour eux, c'était incompréhensible.
J'ai dit aux alliés, vous avez peut-être des estimations différentes de la probabilité d'une invasion à grande échelle, mais d'une certaine manière, ça n'a pas d'importance, parce que peu importe que la probabilité soit de 80 ou de 20%, on doit être préparé au pire.
Je lui ai parlé après sa grande déclaration et j'ai commencé par un long préambule sur la façon dont nos deux pays ont combattu ensemble contre le fascisme, comment la Russie a été partie intégrante de la défaite du nazisme. Il a apprécié tout ça, mais il n'arrêtait pas de dire « Vous devez exclure toute adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ». J'ai répondu « On ne peut pas exclure l'adhésion à l'OTAN, c'est un pays libre ». C'était assez inquiétant, il n'en démordait pas.
Pendant 20 ans, depuis le premier élargissement de l'OTAN, on a entendu dire qu'il n'y aurait pas d'autres élargissements. Il y en a quand même eu 7 en tout. Et là, l'Ukraine était sur le point de se porter candidate à l'OTAN.
L'approchement entre l'Ukraine et l'Occident briserait une relation ancienne. Dans une récente et longue allocution, il avait glorifié les liens historiques, religieux ou linguistiques entre les deux pays.
Donc il basait son discours sur un nationalisme ethnique qu'on n'avait pas vu en Europe depuis la guerre, ou peut-être éventuellement dans les Balkans. Mais c'est aussi un homme qui pensait comme un politicien à ce qu'il laisserait derrière lui. Rien à voir avec l'OTAN et toutes les fausses pistes qu'il a lancées.
L'enjeu pour Poutine était son projet de reconstruction de l'Empire soviétique. Son projet de réintégrer ce qu'il considère comme le cœur spirituel de la mère Russie dans la Russie.
D'apaisement, le secrétaire général de l'OTAN a convaincu les Russes de participer à une réunion de crise.
Le vice-ministre de la Russie était que l'OTAN devait accepter de retirer toutes ses troupes et infrastructures de la partie orientale de l'Alliance. J'ai répondu que ce n'était pas possible, qu'on pouvait discuter du contrôle des armes, mais en aucun cas d'une proposition de la Russie qui interdirait tout élargissement de l'OTAN.
Les discuteurs russes ont fait l'effort de cette réunion, mais ils ont quitté la pièce dans l'état d'esprit dans lequel ils y sont entrés, c'est-à-dire incertains de ce qu'étaient les instructions du président Poutine. Et vous savez, pour un diplomate, c'est quelque chose que vous pouvez voir dans le comportement de vos interlocuteurs quand ils ne savent pas en réalité ce que sont leurs instructions.
J'ai eu le sentiment que la réunion ne s'était pas déroulée aussi bien qu'on l'espérait. Rien n'indiquait du côté de la Russie qu'il y avait une véritable volonté pour trouver une solution diplomatique.
Les Occidentaux, ayant épuisé toutes les options diplomatiques, ont alors organisé une visioconférence.
Notre seule menace face à Poutine, en plus du soutien militaire à l'Ukraine, c'était un ensemble de sanctions qui devaient les assommer. Le problème, c'était les hydrocarbures, le pétrole et le gaz. Les opinions divergeaient autour de la table. Un argument qui a été avancé, notamment par nos amis allemands, était que quand il s'agissait de sanctions, il fallait faire preuve d'ambiguïté créative. Je n'ai moi-même pas compris, pour être tout à fait honnête. Je pensais qu'il suffisait de leur dire qu'on allait couper le pétrole et le gaz russe. On allait sanctionner chacun de leurs oligarques. On va confisquer leur yacht. Je pensais avoir convaincu tout le monde. Et Mario Draghi a dit « Je suis désolé, mais l'Italie ne peut pas faire ça. On ne peut pas se passer du pétrole et du gaz russe. »
Poutine assistait aux commémorations annuelles du siège de Leningrad. En public, il continuait à affirmer que la Russie n'avait pas l'intention d'envahir l'Ukraine. Constant de bataillons russes se dirigeaient vers la frontière ukrainienne.
Pour détailler sur les plans d'invasion de la Russie et aussi sur la précision de leur planification politique de la suite. Je suis arrivé à Kiev et j'ai rencontré le président Zelensky dans ses bureaux de l'administration présidentielle dans le centre-ville de Kiev. Le président Biden m'avait demandé de lui communiquer nos renseignements les plus récents. Leur plan était de frapper vite et fort du sud de la Biélorussie jusqu'à Kiev pour décapiter les dirigeants ukrainiens et installer un régime fantoche.
Il ne nous a rien appris de nouveau. La situation était inchangée, la guerre était inévitable. On l'avait compris, on s'y était préparé.
Écoutez, comment vous dire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit tous fuir le pays? Se pendre? Se tirer une balle? Abandonner? Se soumettre? Se mettre à genoux? J'ai une question très simple pour vous. Si vous savez que demain, la Russie va envahir l'Ukraine, pourquoi ne me donnez-vous pas les moyens aujourd'hui pour l'en empêcher? Et si aujourd'hui, vous ne pouvez pas me les donner, alors arrêtez-la vous-même.
De Kiev, les Ukrainiens vaquaient à leurs occupations quotidiennes.
Je me suis rendu à Kiev, et c'était très bizarre parce que la ville était toujours en ébullition. Volodymyr Zelensky et moi avons eu un long dîner, et on a essayé de comprendre le cœur de leur stratégie. On n'a pas réussi à obtenir grand-chose. En parlant à notre ambassadrice, on s'est dit que Zelensky pensait que Poutine bluffait. Mais je pense qu'on a mal compris ce que Zelensky faisait. S'il avait tenu une conférence de presse avec moi, et qu'il avait dit « la Russie est sur le point d'envahir notre pays, c'est Boris Johnson qui le dit », ça aurait été une catastrophe. Qu'est-ce qui serait passé? Un effondrement économique, en plus de la fuite de tous ceux qui sont vulnérables à une attaque russe.
On était dans une situation très difficile, car d'une part, on voulait se préparer militairement, et d'autre part, on ne voulait pas générer de panique. En la générant, on détruirait l'économie avant qu'il ne se passe réellement quelque chose et cela aiderait les Russes à étrangler notre résistance.
Je rentre de Kiev et le jour suivant, j'ai à nouveau Poutine au téléphone. Et c'est un très long appel, un appel extraordinaire. Il était très informel. Je lui ai dit, si vous faites ça, ce sera une catastrophe épouvantable. Ça impliquerait un tas de sanctions occidentales. Ça impliquerait qu'on continue à intensifier notre soutien à l'Ukraine. Et ça impliquerait plus de présence de l'OTAN à vos frontières. Et il a dit, Boris, vous dites que l'Ukraine ne va pas rejoindre l'OTAN dans un avenir proche. Il a dit en anglais, anytime soon. Qu'est-ce que c'est, anytime soon? J'ai répondu, eh bien, elle ne va pas rejoindre l'OTAN dans un avenir prévisible. Vous le savez parfaitement. Il n'était pas uniquement question de... Il m'a menacé un jour et m'a dit, « Boris, je ne veux pas vous blesser, mais avec un missile, ça ne prendrait qu'une minute. » Il blaguait. D'après son ton très détendu, d'après l'air détaché qu'il semblait avoir, je pense qu'il s'amusait simplement de mes tentatives pour l'amener à négocier.
Poutine était l'invité d'honneur de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver. Le premier ministre chinois et Poutine se sont opposés d'une même voix à l'expansion de l'OTAN. Les deux hommes ont affirmé que les liens entre leurs pays n'avaient pas de limites.
Il a envoyé un message très fort en disant que la Chine était désormais un partenaire et un soutien encore plus proche de la Russie. Cette déclaration n'a fait que souligner l'importance de défendre le principe que chaque nation a le droit de choisir sa propre voie.
Qui ont suivi, les dirigeants occidentaux se sont succédés à Moscou dans l'espoir d'empêcher la guerre.
Si je peux être très clair avec vous, c'est la stabilité de la situation sur le plan militaire à court terme, qu'il n'y ait aucune provocation ou escalade. C'est le principal objet de ma visite, ici et demain à Kiev.
Le ministre de la Défense britannique s'est rendu à Moscou dans un ultime effort afin d'éviter la guerre.
En arrivant à Moscou, on a tous été testés au Covid. Étonnamment, notre interprète était positive, alors qu'elle était négative dans l'avion. Que voulez-vous ? Accueilli par le ministre de la Défense Shoigu et le chef d'état-major, le général Gerasimov, une figure très puissante de l'armée russe, très proche du président Poutine. J'ai emmené délibérément mon chef d'état-major avec moi, mais aussi mon commandant de l'armée de terre. Il était important de signaler aux Russes, si vous faites cela, voici les personnes qui s'occuperont d'y répondre. Elles sont assises dans cette pièce. Les Ukrainiens ne se battront pas. Les forces armées russes sont presque invincibles. La communauté internationale va se fracturer et par conséquent, les Ukrainiens vont les accueillir. Je me souviens avoir dit au ministre Shoigu qu'ils se battront. Et il m'a répondu, ma mère est ukrainienne, ils ne se battront pas. Il a également dit qu'il n'avait aucune intention d'envahir le pays. Ça se dit « Vanu » en russe. Je pense que « Vanu », c'est une démonstration d'intimidation ou de force. Je vais vous mentir. Vous savez que je mens, je sais que vous savez que je mens, et je vais quand même vous mentir. Il y a un terme pour exprimer tout ça en russe. Il savait que je savais, et je savais qu'il savait, mais je pensais que ce qu'il voulait dire, c'était « je suis puissant ». C'était un mensonge assez effrayant, mais direct, en disant qu'ils n'allaient pas le faire. Et selon moi, ça a confirmé qu'ils allaient le faire. En sortant, le général Gerasimov a dit « Plus jamais on ne sera humilié. Nous étions la 4e armée du monde, maintenant nous sommes numéro 2. » C'est l'Amérique et nous. Et à cet instant, on a compris que c'était probablement la véritable raison.
22 février. Je m'en souviens très bien. Il était 19h15. J'ai reçu un document secret qui faisait état d'une menace de liquidation physique de notre président. Je l'ai immédiatement contacté. Je lui ai rendu visite pour l'en informer. J'ai alerté les agences concernées et on a compris que c'était trop tard, que les Russes allaient commencer à envahir.
Je me suis réveillé dans la nuit, avec ma femme et mes enfants. J'ai dit à ma femme de se tenir prête. Il fallait dire aux enfants que la guerre avait commencé. Je veux dire, la situation était déjà claire à ce moment-là. L'expliquer aux enfants, comment leur expliquer, a demandé ma femme. Explique-le tel quel, Ils devraient comprendre. Je me suis rendu à mon bureau, puis on a commencé à travailler.
Downing Street. Zelensky est très calme, mais en parlant avec lui, je me suis rendu compte que je parlais à un homme dont l'intégrité physique était clairement menacée. Il m'a dit, ils attaquent. Les tanks arrivent de partout, on fait de notre mieux malgré le fait qu'ils soient très nombreux. C'est effroyable. Je lui ai dit, pour l'amour de Dieu, trouvez un endroit sûr. Et s'il y a quoi que ce soit que l'on puisse faire pour vous aider, comptez sur nous. Il a décliné ma proposition. Et il est héroïquement resté là où il était.
Усім, хто рятує людей саме зараз і допомагає зберегти порядок в державі.